Quand les saints passent, Dieu passe avec eux.
En 1978, lorsque Karol Wojtyła est choisi par le conclave, le communisme est en pleine expansion et tout le monde trouve ça normal. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'en réjouisse. Il fallait vraiment être polonais pour tenir ce discours tout à fait incroyable de dire « Mais non, le communisme, c'est jamais qu'un accident de l'histoire. Et il faut lutter, parce qu'il ne faut pas se laisser effectivement faire. Il ne faut pas admettre cette doctrine, il ne faut pas admettre ce régime. » À l'époque, même le Vatican essaye de dialoguer avec les pays de l'Est pour nommer des évêques ici, pour encourager une communauté là. Karol Wojtyła, le Polonais, quand il est élu pape, dit « Attendez, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. » L'ostpolitik avait évidemment ses fondements, c'était quelque chose d'intelligent, de fondé. Mais le pape venu de Pologne, lui, va dire « Non, non, avec le communisme, on ne dialogue pas. » Il y a une vraie lutte entre deux visions du monde et il n'est pas question de se laisser influencer par le communisme. Évidemment, ce discours-là ne pouvait être tenu que par un Polonais.
Alors on va peut-être revenir sur la décennie entre 79 et 89. Quelle a été concrètement son action ?
Je crois qu'il faut partir de ce voyage extraordinaire de juin 1979 en Pologne. C'est la première fois que Jean-Paul II revient dans son pays, mais c'est surtout la première fois qu'un pape se rend derrière le rideau de fer. Personne ne savait comment ça allait se passer. Comment ce pape allait-il parler là-bas? Qu'est-ce qu'il allait dire? Comment allait-il être accueilli? Quelle serait la réaction de la population et la réaction des dirigeants? Il a rencontré pratiquement le tiers du pays. La population s'est déplacée en masse, tous les jeunes étaient là. On a déjà oublié qu'en Pologne, à l'époque, comme dans tous les pays communistes, il fallait passer par la censure, même pour éditer une carte de visite. Vous pensez bien que Jean-Paul II, lui, n'est pas passé par la censure. Et voilà ce pape qui, pendant une semaine, va parler de l'homme, de la liberté de l'homme, de la responsabilité de l'homme, de la dignité de l'homme, de la primauté de l'homme, dans un pays qui vit sous une tutelle idéologique très simple. Non, l'homme n'est pas l'essentiel, l'homme n'est qu'un rouage de la machine sociale. C'est ça le communisme. Ça a été franchement la première brèche dans le rideau de fer, dans le mur de Berlin.
Et quelle a été ensuite la portée de ce voyage ?
Étonnez-vous que un an après, les grèves de Gdansk, qui n'étaient évidemment pas fomentées par le pape ou le Vatican, qui étaient bien sûr des grèves sociales, les gens voulaient vivre mieux, ils en avaient marre des syndicats officiels et du parti. Jamais dans l'histoire des pays de l'Est, une grève, un événement historique comme ça, s'était passé au nom du pape ou de la religion. Et voilà que ces grèves de la Baltique se font avec le portrait du pape sur les grilles des chantiers Lénine à Gdansk. Et voilà que ce pape va inspirer les grévistes, les ouvriers, au point qu'ils vont appeler leur syndicat Solidarność, solidarité. Pourquoi ce mot-là ? Évidemment, parce que c'était le mot prononcé par le pape l'année d'avant. Pendant toute une semaine, le pape n'avait parlé que de la solidarité entre les hommes, entre les communautés, entre les paroisses, entre les villes, entre les professions. C'était la clé. Qu'est-ce que c'est que la solidarité ? C'est le fait de relier les hommes, religuérer la religion. C'était ça que le communisme ne pouvait pas admettre. Et c'est ça que le pape va faire passer au cours des années qui suivent. Cette idée que les hommes peuvent être solidaires et non pas obéir simplement à un parti unique ou à un État ou à un régime. C'est en cela que le pape va tenir un discours complètement comparable à ceux des dissidents. Les dissidents, ils n'étaient pas tous catholiques, ils n'étaient pas tous croyants, même Sakharov était athée. Ce discours, c'était un corpus de Valhomme. Ça, au fond, ça s'appelait les droits de l'homme, mais les droits de l'homme au sens fort du terme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire la primauté de l'homme, l'homme d'abord, l'homme au centre de tout. C'est autour de ça que les dissidents de tous les pays et de tous les bords vont se retrouver. Le pape va revenir en Pologne, rappelez-vous. 83, 87, des voyages qui se passent sous ce qu'on appelait l'état de guerre, c'est-à-dire que le régime militaire polonais avait tout verrouillé, parce que ça allait trop loin, bien sûr. À Moscou, on ne pouvait pas admettre que tout d'un coup la Pologne retrouve sa liberté de pensée, sa liberté culturelle, sa liberté religieuse. Et voilà que le pape va continuer à prôner le dialogue, la non-violence, car voilà quand même un événement historique de tout premier ordre qui se passe pratiquement sans qu'un coup de feu ait été échangé, pratiquement sans une violence. Et on arrive en 1989, où le pape va pousser à ce dialogue qui va aboutir en Pologne à un gouvernement non communiste, c'est-à-dire à quelque chose d'incroyable, personne n'avait prévu ça, en août 89, qui va déboucher sur la chute du mur de Berlin, quelques mois plus tard.
Est-ce qu'on sait quelles ont été les paroles de Jean-Paul II lorsqu'il a appris la chute du mur de Berlin ?
Le jour même, on ne le sait pas, mais on sait ce qu'il a dit très vite, à plusieurs reprises. Il a parlé d'un long chemin vers la liberté, d'un pèlerinage qui passe par Varsovie, Sofia, Bucarest, Budapest, etc. Et il en fait un espèce de pèlerinage vers la liberté, même si le pape lui-même dira « moi je fais pas de politique, bien entendu c'est pas une croisade, etc. » À un moment, il synthétise la formule. C'est Dieu qui a vécu à l'Est. C'est les valeurs de l'Évangile, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en l'homme qui ont fait s'effondrer le communisme.
Donc il a été assez ferme par rapport au communisme de Russie, de Pologne. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a été plus doux lorsqu'il est allé à Cuba ?
Non, on peut dire que c'est très différent, Cuba. Jusque-là, on est en Europe. Et le combat de Jean-Paul II est un combat pour l'Europe. Pour l'Europe avec ses valeurs, avec ses racines chrétiennes, pour l'Europe réunifiée, etc. Cuba, évidemment, c'est différent. C'est une île très catholique. Et Jean-Paul II ira donc en 1998 à Cuba avec un slogan très simple et en même temps, comme toujours avec cet homme-là, très très riche. Il dit « il faut que Cuba s'ouvre au monde ». Et il faut que le monde s'ouvre à Cuba. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que Cuba laisse tomber son régime oppressant avec ses prisons et la persécution de tous les gens qui ne pensent pas comme Fidel Castro. Et en même temps, car Jean-Paul II a toujours eu ce souci d'être positif, il faut que le monde s'ouvre à Cuba. Ça voulait dire qu'il faut que les États-Unis arrêtent l'embargo. Il faut que les uns et les autres tendent la main à Cuba pour que Cuba puisse s'ouvrir au monde. Tout le monde gardera en tête l'image de ce pape sous l'espèce d'incroyable sculpture à Che Guevara qui trône place de la Révolution à Cuba. C'était quand même quelque chose d'inouï. Ça restera des images d'histoire.
Quand les saints passent, Dieu passe avec eux.